le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui je vais vous parler du droit de manifester, puisque les autorités tunisiennes aujourd'hui punissent la mobilisation en faveur des droits sociaux, économiques et environnementaux. Dans un contexte de hausse du coût de la vie et de la crise environnementale, et bien qu'elle se soit engagée à plusieurs reprises à défendre la justice économique et sociale pour les plus démunis, les autorités tunisiennes ont, au cours des 5 dernières années, pris pour cible des personnes appartenant à des communautés marginalisées et défavorisées qui avaient manifesté pacifiquement ou fait grève en relation avec des questions socio-économiques et environnementales. Notre nouveau rapport intitulé « On demandait juste que nos droits et notre dignité soient respectés » souligne qu'en utilisant des accusations d'entrave à la définition vague, les autorités tunisiennes ont arrêté, soumis à des enquêtes et poursuivi, des personnes ayant manifesté de manière pacifique ou bien qui ont fait grève contre de mauvaises conditions de travail, contre la pollution ou pour l'accès à l'eau. Entre février 2020 et janvier 2025, les autorités ont pris pour cible au moins 90 militants, militantes, syndicalistes, manifestants, manifestantes et travailleurs et travailleuses pacifiques ayant simplement exercé leur droit à la liberté de réunion pacifique, leur droit de former un syndicat et d'y adhérer, et celui d'organiser des grèves et d'y participer. Le droit à la liberté de réunion pacifique est essentiel à la bonne santé d'une société et constitue un moyen crucial de renforcer les droits humains et de protéger les droits des travailleurs et des travailleuses. C'est ce qu'a déclaré Sarah Achache, qui est directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Elle dit, je cite, « Ce rapport met en évidence un schéma inquiétant dans lequel le militantisme pacifique donne lieu à une criminalisation injuste, généralement au niveau local, où des communautés et des travailleurs et travailleuses se mobilisent afin de défendre leurs droits socio-économiques ou environnementaux les plus fondamentaux. Il s'agit d'une forme moins visible de la répression de l'opposition pacifique dans le cadre d'une politique plus large attaquant les droits humains en général et l'état de droit en Tunisie, et qui menace donc encore davantage l'espace civique dans le pays. Au lieu de porter de vagues accusations d'entrave pour étouffer ou sanctionner l'expression d'une opposition pacifique ou d'un mécontentement lié à des droits fondamentaux en matière d'environnement ou de travail, les autorités tunisiennes devraient s'efforcer de préserver et de faire respecter le droit à la liberté de réunion pacifique, conformément d'ailleurs à leurs obligations internationales en matière de droits humains. Amnesty International a enquêté sur 9 affaires illustrant une tendance plus large à la criminalisation des rassemblements pacifiques pour entrave. Il est probable que ces affaires ne soient pas suffisamment signalées en raison du lieu où elles se déroulent, du fait que les communautés concernées n'aient pas accès aux organisations de défense des droits humains et de la crainte de représailles de la part des autorités et des employeurs. L'organisation a recueilli des propos de 26 personnes, 8 de leurs avocats et 4 de leurs proches afin de rassembler des informations sur ces cas qui ont impliqué des enquêtes, des arrestations, des poursuites menées contre 90 personnes sur la base d'accusations d'entrave. Ces dispositions, formulées de manière assez vague, ne respectent pas le principe de légalité et ne concernent pas une infraction pénale reconnue par le droit international. L'entrave, c'est pas reconnu par le droit international. Les poursuites judiciaires ont été engagées en représailles à des rassemblements pacifiques ou alors à des actions syndicales, souvent organisées en affiliation avec l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT, et elles visaient à dissuader les manifestants, les manifestantes et toute autre personne de participer à de futures actions de protestation et de grève. Parmi les personnes visées, 16 ont été arrêtées et maintenues en détention pour des périodes allant de 3 jours à 20 mois. Parmi les personnes visées figurent des résidents et résidentes et des militants et militantes des droits environnementaux ayant manifesté afin de défendre leur droit à l'eau et à un environnement sain, ainsi que des travailleurs et des travailleuses et des syndicalistes ayant organisé des actions de contestation ainsi que des grèves pour protester contre les conditions d'embauche et de travail. Une gréviste employée par une usine de chaussures de Kirouane a ainsi déclaré, je cite, « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avons décidé de passer à l'action. Nous n'avons aucune protection contre les produits chimiques que nous utilisons dans l'usine. En été, nous devons travailler à des températures extrêmement élevées. Il n'y a pas d'eau et notre bien-être n'est pas du tout respecté. Si vous tombez malade, votre salaire est réduit. Si vous ne pouvez pas travailler à cause d'une blessure ou une maladie, vous êtes renvoyé. Les violences verbales et les insultes sont constantes. Elle a expliqué que des employés étaient convoqués par la police en novembre 2024, juste avant une réunion de constitution pour la formation d'un nouveau syndicat. Et elle nous dit, je cite, « Ils voulaient que nous déclarions que nous avions été manipulés pour commettre une illégalité ou que nous avions d'autres motifs douteux, mais c'était infondé. On demandait juste que nos droits et notre dignité soient respectés. » Si la plupart des personnes concernées ont été déclarées coupables et condamnées à des amendes ou à des peines de prison avec sursis, ou n'ont tout simplement pas été maintenues en détention durant le procès, ces pratiques ont un effet dissuasif sur celles et ceux qui envisagent de s'exprimer ou d'exprimer des préoccupations en relation avec leurs droits sociaux, économiques et environnementaux. Un résident de la ville de Bargou, dans la région de Siliana, au nord du pays, ayant participé à une manifestation sur l'accès à l'eau en février 2023, a déclaré à Amnesty International, je cite, « C'était à peine une manifestation, nous nous tenions au bord de la route avec des panneaux, il n'y a eu aucune perturbation, la police a convoqué des dizaines de personnes pour ça. » Un militant de la région de Sfax, qui est à l'est du pays, déclaré coupable d'implication au sein d'un mouvement de protestation en faveur de l'environnement en juin 2023, a déclaré à Amnesty International « Tout le monde a été traduit en justice. C'était une manière de nous faire taire, de nous dire de la fermer, sans quoi nous irions en prison. » En février 2020, des travailleuses du secteur forestier ont été convoquées à Sfax à la suite d'un sit-in organisé pour protester contre leurs conditions de travail. La police leur a demandé de signer des déclarations dans lesquelles elles s'engageaient à ne plus manifester, ce qui est évidemment contraire à leur droit de réunion pacifique. Cette tendance est renforcée par le fait que, dans 5 des cas recensés, des violations graves du droit à un procès équitable et à une procédure régulière ont été commises, notamment lorsque les accusés ont été privés des droits à l'information et à une défense adéquate. Dans 8 des 9 cas examinés, les autorités ont invoqué l'article 136 du Code pénal relative à l'entrave au travail et, dans un cas, l'article 107 du Code pénal sur l'obstacle à un service public. Des charges d'entrave ont parfois également été maintenues parmi les différentes accusations portées contre des personnalités du monde politique et de la société civile ayant exprimé leur opposition au président Kais Saïd, comme par exemple Anas Mehdi, qui est juge, et Abir Moussi, qui est le dirigeant d'un parti d'opposition. Sarah Achache a déclaré « L'application arbitraire de ces dispositions juridiques à la définition vague relative à l'entrave, associée à des violations du droit à un procès équitable, tout ça, ça bafoue les obligations auxquelles la Tunisie est tenue en vertu du droit international relatif aux droits humains, et ça envoie un message dissuasif à quiconque ose revendiquer ses droits. Les autorités tunisiennes doivent donc immédiatement annuler les condamnations et abandonner les poursuites liées à la participation à des manifestations de rue pacifiques et à des grèves. Elles doivent aussi abroger les articles 107 et 138 du Code pénal ou les modifier afin qu'elles soient conformes aux normes internationales relatives aux droits humains. » Après que le président Kais Saied s'est emparé du pouvoir en juillet 2021, les autorités tunisiennes ont lancé une action répressive d'une ampleur accrue contre les droits humains, notamment le droit à la liberté d'expression et toutes les autres formes d'opposition, en recourant à des lois répressives et à des accusations infondées pour poursuivre et détenir de façon arbitraire des opposants et des opposantes politiques, des journalistes, des défenseurs et défenseuses des droits humains et des militants et militantes de la société civile, ainsi que des avocats et d'autres personnes perçues comme critiques, tout en érodant l'indépendance de la justice et l'état de droit. Le droit aux libertés d'expression et de réunion pacifique sont protégés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et aussi par la charte africaine des droits humains et des peuples auquel la Tunisie est partie. Le droit international oblige les États à tolérer les perturbations temporaires telles que les entraves à la circulation routière ou piétonne ou à l'activité économique lorsqu'elles sont causées par des rassemblements pacifiques. Le seul fait de perturber la circulation des véhicules ou des piétons ne constitue pas de la violence en soi, selon ces chartes. Le droit de manifester est devenu un problème partout dans le monde, puisqu'il est souvent entravé. Et si vous voulez en savoir plus sur la question, parce que ce n'est pas qu'en Tunisie, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour avoir plus d'informations sur ce sujet et lire notre rapport sur la Tunisie. Et le droit de manifester est encore plus entravé quand il s'agit de l'environnement. Et pourtant, il faut agir d'urgence, parce que la crise climatique, elle engendre de nouveaux préjudices dévastateurs pour les droits humains partout. Les États doivent donc de toute urgence mettre en œuvre une action climatique ambitieuse en planifiant une transition juste vers l'abandon progressif des combustibles fossiles dans tous les secteurs, afin d'éviter des atteintes aux droits humains encore plus graves de par le monde. Et malgré les défis que pose le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, il y a de plus en plus de pratiques autoritaires dans le monde et des dégâts croissants qui sont causés à l'environnement du fait de l'escalade des conflits armés dans le territoire palestinien occupé notamment, au Soudan ou en Ukraine entre autres. Et pourtant, il n'est pas trop tard pour trouver un terrain d'entente et consolider l'ambition climatique pour la planète et les droits des générations actuelles, mais aussi futures. En 2024, pour la première fois, le monde a franchi le seuil symbolique de 1,5 degré Celsius de réchauffement planétaire par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle. Au cours de l'année la plus chaude jamais recensée, des incendies de forêt ont ravagé l'Amérique latine, l'ouragan atlantique de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré a frappé les Caraïbes, tandis que certaines régions d'Europe centrale étaient inondées par l'équivalent de 3 mois de pluie en 5 jours, dans un contexte d'aggravation de l'urgence climatique sous l'effet de l'activité humaine et de la combustion des énergies fossiles. Les terribles préjudices pour les droits humains résultant du changement climatique ne cesseront de s'amplifier si le réchauffement planétaire n'est pas maîtrisé. De plus en plus de gens seront plongés dans la pauvreté, perdront leur logement ou souffriront des effets de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire. Face à la crise climatique qui s'aggrave, les mesures prises par les gouvernements pour limiter la production et l'utilisation des combustibles fossiles s'avèrent tout à fait insuffisantes. Les gouvernements sont sous la coupe des entreprises de combustibles fossiles qui cherchent à minimiser les effets néfastes sur le climat et à discréditer la science du climat. Ils continuent de leur accorder des subventions, encourageant ainsi le maintien de cette industrie. Chacun et chacune a le droit de vivre dans un environnement propre, sain et durable. Et pourtant, à mesure que la crise climatique s'intensifie, ce droit et d'autres sont de plus en plus menacés. Partout dans le monde, des catastrophes non naturelles exacerbées par le changement climatique, telles que les fortes sécheresses et les graves inondations, endommagent les récoltes et provoquent des pénuries de nourriture et d'eau, alimentant ainsi les déplacements, les migrations et les conflits. Il s'agit donc tout d'abord de protéger les personnes sur le terrain et surtout de les écouter. Les populations marginalisées sont en première ligne et dans le premier cercle qui utilise le moins les combustibles fossiles et subissent certains des pires impacts du changement climatique. Il s'agit notamment des paysans pratiquant une agriculture de subsistance, des peuples indigènes et des habitants et habitantes des États insulaires de faible altitude menacés par l'élévation du niveau des océans et des tempêtes ravageuses ou alors qui vivent à proximité des sites de production et de transport de combustibles fossiles. Le Pakistan, par exemple, contribue à moins de 1% des émissions annuelles de gaz à effet de serre et c'est l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. Dans un rapport publié le mois dernier, Amnesty International a révélé que les inondations et les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes entraînent des décès inévitables, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Malgré l'urgence de la crise climatique, ceux qui demandent aux autorités d'agir sont harcelés, stigmatisés, attaqués et criminalisés. Partout dans le monde, des défenseurs et des défenseuses de l'environnement luttent pour leurs droits à la terre et leurs droits de leur communauté à un environnement sain, au péril de leur vie et de leur liberté, à l'instar par exemple des guerriers de l'Amazonie en Équateur. Il est important d'intégrer les voix, les opinions, les connaissances et la sagesse des peuples autochtones, des communautés en première ligne et des défenseurs et défenseuses des droits humains dans les politiques, les plans et les actions en matière de climat. Anne Harrison, qui est conseillère pour la justice climatique à Amnesty International, nous dit qu'il est important d'intégrer toutes ces voix afin de réunir les éléments pour une meilleure justice climatique. La conférence est l'occasion de mettre en lumière la situation en Azerbaïdjan, pays hôte donc de la COP29, où le défenseur des droits environnementaux Anar Mamadli et la journaliste Nargiz Absalamova auteurs de reportages sur les questions environnementales sont toujours derrière les barreaux. D'autres journalistes ayant rendu compte de la situation des droits humains, y compris pendant la COP29, ont été arrêtés par la suite dans le cadre de représailles manifestes. Le Brésil, qui va accueillir la COP30, c'est l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs et défenseuses de l'environnement, qui sont souvent victimes d'assassinats, de violences, de menaces et de stigmatisation en raison de leur travail. Une fois de plus, des informations font état de badges restreints et de problèmes de visa pour les personnes de la majorité mondiale souhaitant assister à la conférence de Beaune. En outre, les accords avec les pays hôtes des COP, qui est un outil clé et qui doit être renforcé pour garantir la liberté d'expression et de réunion pacifique des participants et participantes, ces personnes-là ne sont pas disponibles publiquement de manière courante. Amnesty International demande également aux États de s'attaquer au financement de l'action climatique. Aujourd'hui, les pays à faible revenu reversent davantage pour rembourser la dette qu'ils ne reçoivent pour financer l'action climatique de la part des pays à revenus élevés. Les pays à revenus élevés, historiquement gros émetteurs de gaz à effet de serre et principaux responsables du changement climatique, esquivent de leur côté leurs obligations de doter les pays à faible revenu de financements destinés à réduire les émissions et à aider les populations à s'adapter au changement climatique et d'accorder des réparations pour les pertes et préjudices, ce qui pourrait alléger le fardeau des pays impactés par le changement climatique. Pour Anne Harrison, taxer les entreprises de combustibles fossiles, les bénéfices exceptionnels des entreprises et les grandes fortunes, cesser de subventionner et d'investir dans les combustibles fossiles et mettre fin aux fraudes fiscales à l'échelle mondiale, tout ça, ça pourrait rapporter plus de 3 000 milliards de dollars par an. Ça permettrait donc de couvrir en grande partie le coût de la lutte contre le changement climatique. La conférence de Beaune sur les changements climatiques est donc un moment clé pour préparer la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP30, qui se tiendra plus tard dans l'année au Brésil, qui est d'ailleurs un pays désireux de se faire le champion de la protection de l'environnement au niveau mondial. Pourtant, en interne, certaines de ces institutions prennent des mesures contraires à ce programme, notamment en allégeant les critères d'autorisation pour des projets destructeurs d'un point de vue environnemental et en augmentant la production de combustibles fossiles. Amnesty International invite donc les États à s'engager à l'abandon progressif des énergies fossiles de manière totale, rapide, équitable et dotée de financement dans tous les secteurs par le biais de transitions justes, sans s'appuyer sur des technologies risquées et n'ayant pas été mises à l'épreuve, ni sur des compensations qui n'aboutissent pas à de véritables baisses des émissions. Et enfin, Amnesty International demande des débats inclusifs sur le changement climatique, impliquant les personnes les plus touchées par ce phénomène, bénéficiant d'une vraie place dans ces négociations de haut niveau, sans discrimination. Si vous voulez en savoir plus sur notre engagement pour le climat à Amnesty International, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour avoir plus d'informations. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.